Vous avez compris depuis quelque temps, j'essaie, avec la permission du conseil, de nous faire vivre une autre expérience de prédication, de nous enrichir aussi avec des frères qui sont là dans l'assemblée. Voilà, c'est mieux. Donc je disais que depuis quelques dimanches, ça fait la deuxième fois dimanche dernier que vous m'avez vu dans cette pédagogie d'enseignement à deux voix avec Adrien. Et ce matin aussi, je voudrais vraiment inviter un frère à partager avec nous. Et moi, je terminerai ce temps de message. Je l'ai présenté au conseil qui m'a dit, OK, on va expérimenter cela pour voir comment Dieu nous enrichit. Et j'estime que les hommes et les femmes que Dieu nous donne dans l'Église, qui ont une maturité et qui grandissent en maturité, sont une bénédiction pour l'Église. Et que parce que nous sommes une bénédiction, Dieu a toujours quelque chose dans nos cœurs pour les frères. Et c'est ce que nous avons vécu le dimanche de Pâques avec le témoignage de nos sœurs, qui ont été des témoignages forts, qui nous ont porté quelque chose. Et aussi avec ces deux voix de message entre Adrien et moi. Et ce matin, je vais inviter le frère Eben à partager avec nous ce que Dieu a mis sur son cœur. Et moi, je conclurai ce temps de message avec quelques paroles que Dieu a mis aussi sur mon cœur.
Bonjour à tous. J'étais bien hein, là où j'étais. Je me sentais très à l'aise là où j'étais. Elle a du coup complètement. Je perds les pédales comme on dit. Le pasteur a déjà prié. Comme je lui avais demandé de mettre des gardes tout autour, parce que je risque de m'enfuir. Vous savez que pour parler de la parole de Dieu, peut-être dans nos vies courantes, dans nos affaires courantes, nous sommes capables de le faire facilement, parfois. Mais quand il est question d'être là, c'est toujours un fardeau. Mais la Bible nous dit que, comme l'un de nos frères l'a cité tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vais essayer de prendre mon souffle. Nous allons parler de la résurrection. De la résurrection. Nous avons plusieurs lectures. Nous allons commencer par Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28. Je vous fais la lecture. Matthieu 28, chapitre 28, versets 2 à 7. Alors tout de suite, vous verrez le premier verset qui parle du sabbat et ensuite les femmes qui se rendaient, le lieu qu'on avait mis le corps de notre Seigneur. Juste avant de lire, je vais vous rappeler juste une chose qui est importante pour moi, pour chacun de nous. Vous savez qu'il y a des dates dans l'histoire, on ne peut pas les oublier. Je crois que pour l'Église chrétienne, pour le protestantisme, Par exemple, si on nous parle de la réforme, cette date, c'était le 31 octobre 1517. Enfin, je ne vous demande pas, vous, mais je pense que c'est une date dans la vie de l'Église, nous, les enfants des dieux, c'est une date qui est importante pour nous. Il en est de même pour la résurrection, la Pâque. Je pense que ici présent, nos enfants qui ont 5-10 ans, ils connaissent tous leur date de naissance. Ainsi, pour vous, moi, adultes que nous sommes, nous connaissons tous nos dates de naissance. Je dirais ici, la résurrection, c'est un fait historique. Et non seulement c'est un fait historique, mais c'est le fondement même du christianisme. La résurrection, c'est un fait historique, mais c'est le fondement même, là, le socle. C'est ce qui fait notre foi. C'est sur quoi notre foi est fondée. Et comme beaucoup d'entre nous l'ont dit dans nos prières, bien sûr, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, ça ne servirait à rien d'être ici. Hein. Mais c'est parce que Jésus est ressuscité et nous en sommes convaincus. Et voilà pourquoi, pas seulement nous ici, un peu partout, au moment que nous parlons ici, il y a des frères et des sœurs qui dorment et qui vont se réveiller bientôt pour aller adorer le Seigneur. Donc, c'est un roulement. Notre foi est fondée sur ces faits-là. Et c'est un fait important dans la vie de l'Église, la résurrection. Je vous lis Matthieu 28, verset 2, 7. Voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme de la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez les lieux où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous le dis. J'aimerais aussi, peut-être, je ne sais pas si je vais pouvoir tout dire, j'aimerais aussi que nous lisions, j'aimerais que nous lisions ces textes en Luc chapitre 1, verset 28-30. C'est ça qui va nous servir de base, de support. Luc, chapitre... Si quelqu'un veut bien me faire cette lecture, s'il vous plaît. Et quelqu'un d'autre, je vais vous demander de faire quelques exercices. Comme ça, entre-temps, je vais me soulager, je vais prendre du souffle aussi. Luc, chapitre 1er, verset 28-30. Luc, chapitre 1er, verset 28-30. Luc, chapitre 2, verset 9-10. Matthieu, chapitre 1, verset 20. Et au final, quelqu'un d'autre va me lire, s'il vous plaît. Daniel, bon, moi je lis Daniel comme c'est dans l'Ancien Testament, peut-être un peu plus facile pour moi à trouver. Daniel, chapitre 7, verset 9. Oui, merci. Oui. Très bien. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Luc chapitre 2, versets 9, 10. D'accord. Matthieu 1er, verset 20. Et entre-temps, je lis Daniel chapitre 7, verset 9. Je regardais pendant qu'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Quelqu'un d'autre à Matthieu 1er, verset 20? Merci beaucoup. Pourquoi j'ai essayé de vous présenter ces textes, c'est juste pour situer de quoi nous allons parler, parce qu'il est question d'un ange en Matthieu chapitre 28, et il est bon de voir tout autour, dans l'humanité de Jésus, il y a eu toujours, à la conception de sa naissance, il y a eu un ange, c'est ce que nous venons de lire, à sa naissance, il y a eu la présence d'un ange, et que, rappelez-vous, Joseph, de son côté, ce n'est pas le moment, ce n'est pas la Noël, comme on dit, mais comme Joseph, qui était lui le fiancé de Marie, tout à coup, un obstacle, et Joseph a voulu simplement prendre ses dispositions, mais l'ange, il y a un ange qui a fait son apparition pour dire à Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour femme. Maintenant, nous allons rentrer dans notre petite méditation. J'aimerais voir trois points avec vous. La première point, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons voir les stratégies que le Seigneur Dieu, les stratégies, la méthode, ce qu'il a utilisé pour procéder à cette résurrection. En second lieu, nous allons voir, c'est en Matthieu chapitre 28, nous allons voir ça. Nous allons voir, il y a cet ange qui rentre en scène. Commençons par les stratégies. Le texte nous dit, je suis en Matthieu chapitre 28, verset 2, il y eut un grand tremblement de terre. Voilà les stratégies. Déjà, en Matthieu, chapitre 27, versets 51-53, nous avons vu, lorsque Christ était du haut de la croix, il y a eu un tremblement de terre. Et la Bible nous dit, ce que je viens de vous dire à l'instant, au verset 51, Matthieu 27, 51-53, la Bible nous dit, il y a eu un tremblement de terre qui a produit, qui a permis des gens qui ont connu Dieu. Ils sont ressuscités, la Bible nous dit, on les a même vus dans les rues de Jérusalem. Beaucoup de gens les ont vus. C'est-à-dire que de vendredi, samedi, dimanche matin, il y a deux tremblements de terre. Quand Dieu veut délivrer ses enfants, Dieu est capable, bien aimé, d'utiliser toutes ses forces pour nous délivrer. Dieu est capable d'utiliser toute sa puissance pour nous délivrer. Alors, le tremblement de terre ici, vous savez que quand il est question d'un tremblement de terre, forcément, il y a des morts, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent quand il y a un tremblement de terre. Mais j'ai essayé de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce tremblement de terre qui a lieu? Le texte nous dit, c'est limité, c'est localisé le lieu où le corps de Jésus avait été mis. Le texte nous dit, ce tremblement de terre, c'était pour sortir Jésus de là. On avait mis son corps, et rappelez-vous, on avait mis une grosse pierre. La pierre a été roulée. Et cette pierre a beaucoup de signification. Ça peut présenter pour nous beaucoup d'obstacles. Et nous voyons que l'éternel Dieu, le Dieu tout-puissant, l'éternel des armées, il a utilisé les phénomènes, un phénomène surnaturel pour sortir le corps de Jésus. Rappelez-vous, je vous dis, à sa conception, parlons de Jésus, il y a eu un ange, sa naissance, un ange. Et j'aimerais juste vous montrer un texte aussi, ça peut booster votre foi, je suis sûr, cette parole. En Actes chapitre 16, verset 25-26, la Bible nous dit, Silas et Paul étaient en prison. Ce n'est pas notre sujet, mais c'est important. Mais ces hommes-là, 25-26, acte 16, ils sont en prison. Mais vous croyez que c'est sérieux, ça? On est en prison, c'est le moment de prier. Vous croyez ça? On est en prison, on est enchaîné. Vous croyez que c'est le moment de louer? La Bible nous dit, ce monsieur, ces hommes, ces apôtres priaient, louaient, chantant la gloire de Dieu. Les autres prisonniers de l'autre côté les entendaient. Et que nous dit la Bible au verset 26? Il y a un tremblement de terre. Dieu se sert de moyens extraordinaires pour nous délivrer quand il veut. Le tremblement de terre. Et nous voyons un ange qui rentre en scène. Ça demande, ça provoque ma curiosité. Un ange du Seigneur descendu du ciel, ayant pour mission, pour faire croire, pour rouler la pierre. Vous êtes là? Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre. Il n'a pas seulement roulé la pierre, mais la Bible nous dit, il s'assit dessus. Et lorsque nous lisons le chapitre 28, les gardes, ils ont fait un rapport pour dire que, dans le sens inverse, ils ont fait leur rapport pour dire ce qui s'est passé. Mais les religieux de l'autre côté, ils demandent aux gardes de dire plutôt, c'était les disciples de Jésus-Christ qui étaient venus extraire le corps de là où il avait été mis. Mais nous voyons, ce n'est pas ça du tout. Le texte nous dit, l'ange, ce n'est pas un voleur. C'est quelqu'un, il est tranquille. Il vient, il fait son travail, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas pressé, il prend son temps pour faire ce qu'il a à faire. Et nous voyons que dans ce passage, lorsque je vous lis, ma curiosité me pousse à chercher qui est cet ange. Et c'est pourquoi nous voyons, je vous lisais en Daniel chapitre 7, verset 9, la Bible l'appelle l'ancien du jour, cet ange, l'ancien du jour. Donc, l'ancien du jour, qui peut être l'ancien du jour, si ce n'est que Dieu? L'ancien du jour, Dieu est capable de tout. Maintenant, nous allons voir un fait. Il y a les gardes qui sont là. Il y a les gardes qui sont là. Ils ont peur, ils tremblèrent. Mais l'ange continue sa mission. Et nous voyons au verset 5 de Matthieu, l'ange prit la parole et dit aux femmes. J'étais en train de me demander, mais est-ce que ces femmes ont envoyé un SMS, bien que c'est pas dans notre temps moderne aujourd'hui. Je me demandais, mais est-ce que ces femmes on pensait d'envoyer un email pour dire à l'ange l'endroit où on va se rencontrer. Alors, je n'ai rien à te dire, mais puisque tu es au courant, quand tu arrives, fais ce que tu as à faire. Verset 5. Mais l'ange prit la parole. Remarquez, je vais attirer votre attention. Si vous êtes, vous avez un rendez-vous ici à Créteil, vous ne connaissez pas très bien l'endroit où vous allez. Si vous êtes en voiture ou à pied, il y a deux possibilités. Certainement, vous allez vous arrêter, vous allez vous renseigner auprès d'un passant. Et que, d'ailleurs, avant tout, je pense que la politesse veut qu'on dise bonjour pour se renseigner. D'accord? Maintenant, c'est là que vous allez utiliser le conditionnel. Monsieur, pourriez-vous tout ça? Mais nous voyons ici, la Bible ne nous dit pas si ces femmes ont déjà eu une connaissance de cet ange. Et la Bible ne nous dit pas aussi, inversement, si cet ange a eu déjà affaire avec ces femmes. Au verset 5, le texte nous dit, « Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes. » Qu'est-ce que ça veut dire? Je pose des questions pour comprendre. « Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas ici. » Rappelez-vous que Christ est crucifié le vendredi. On a mis son corps dans le tombeau. Et déjà depuis le dimanche d'avant, ces femmes-là, les partisans de Jésus, ses proches, ils sont tous dans une lamentation, ils sont épuisés, fatigués, tourmentés. Nous pouvons comprendre ça quand nous, dans nos familles, nous perdons un être dans quelles conditions que ce soit, dans quelques conditions que ce soit, ça nous laisse toujours un peu, on ne se sent pas bien. Et là, il y a une femme particulière, en la personne de Marie de Magdala, cette femme pour qui Jésus a fait une délivrance. Et Marie de Magdala, la maman de Jésus, et l'autre Marie, se sentaient désolé, tourmenté, sans force. Et voilà, il y a dans cette situation, il y a quelqu'un qui se présenta à eux, qui les a dit, pour vous, au verset 5, je suis, pour vous, ne craignez pas. Je pense que cette parole a fait du bien aux femmes qui ont entendu cette parole, parce qu'elles étaient désemparées. J'aimerais attirer votre attention. Il y a une chose importante. Écoutez ce que dit l'ange. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous fait comprendre que l'ange a une connaissance. Écoutez, car je sais, l'ange a une connaissance exacte de ce qui s'était passé. Non seulement il connaît, et écoutez ce qu'il dit ensuite, je sais que vous cherchez Jésus, le fait qui s'était passé, Jésus qui a été crucifié. C'est que cet ange en question, l'événement qui s'est déroulé, n'était pas étranger pour lui. Il connaît tout ça. Et nous voyons un peu plus loin. Maintenant, l'ange qui s'est positionné au verset 6, c'est comme s'il était un guide touristique. Regardez au verset 6. Il n'est point ici. L'ange est en train de faire une annonce ici. L'ange est en train de faire une annonce pour dire aux femmes, il n'est point ici. Qu'est-ce qui se passe? Il est ressuscité. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Et l'ange continue son travail comme s'il était guide touristique. Il fait une invitation, venez et voyez le lieu où il était couché. Voilà le fait. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, il y a des contestations, il y a beaucoup, il y a un certain Marcion, ce sont des opposants face à Jésus-Christ, il y a un certain Marcion qui voulait faire croire que Jésus n'était pas mort, Jésus n'est pas ressuscité, c'est juste une blague. Mais tout ce qui se passe, sa naissance, son enfance, tous des miracles, il a donné à manger, il a guéri les malades, il a fait des choses. On n'a pas tellement contesté tout ça. Mais quant à sa résurrection, là, il y a beaucoup de gens qui pointent du doigt pour faire croire qu'il n'est pas ressuscité. Oui, Jésus, moi je connais dans ma communauté, il y a un docteur, enfin c'est son nom, il se dit docteur, qui aujourd'hui qui parle tellement mal de Jésus. Quand je dis de ma communauté, je suis haïtien, c'est-à-dire de la communauté haïtienne, il y a un intellectuel haïtien qui écrit beaucoup de livres sur ça, qui fait comprendre que comme quoi c'est une fiction, Jésus n'est pas ressuscité. La Bible parle fort pour dire Jésus est ressuscité. L'apôtre Paul va nous dire que j'ai été crucifié avec lui. Et aujourd'hui, si nous vivons, Christ vit en nous. Non seulement nous avons été crucifiés, et quelque part, par la foi, nous sommes assis, il nous a rendu la vie, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et nous voyons au verset 7, et l'ange, non seulement il fait son travail comme s'il était un guide touristique, au verset 7, il donne un ordre. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. Je crois que la résurrection de Jésus-Christ, comme je vous disais tout au début, c'est un point important dans notre vie chrétienne. Ça, nos adorations, nos louanges, nos remerciements, c'est grâce. Parce que Jésus-Christ s'était donné pour nous et aujourd'hui nous bénéficions plein de choses. Et comme j'ai déjà parlé de la stratégie et de cet ange qui était entré en scène, et maintenant nous allons voir les bienfaits de la résurrection. Les bienfaits. Nous allons voir ça, les bienfaits de la résurrection. Quels sont les bienfaits nous bénéficions de la résurrection de Jésus-Christ? Beaucoup. Paul, qui était farouchement opposé à cette doctrine, farouchement opposé à cette voie, mais après, Paul est devenu un artisan, c'est comme quoi c'était son affaire personnelle. Et Paul va nous dire en Romains chapitre 5, non, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, il nous dit « Christ est mort pour nos péchés. » Pourquoi Christ a-t-il été à la croix? Christ a été à la croix pour nos péchés. Et ce même Paul va nous dire en Romains chapitre 4, verset 25, Jésus-Christ est mort pour nos offenses. Même si vous et moi, nous n'étions pas là, rappelez-vous, tout homme qui vit sur cette terre, forcément, vous êtes tiré d'Adam. Parce que le premier homme, c'est Adam qui était le premier homme créé. Et comme lui, c'est d'Adam et Ève, les péchés étaient rentrés dans le monde, automatiquement, nous héritons de ça. Et donc, il a fallu qu'un autre Adam vienne pour réparer les torts. Et les bienfaits de la résurrection, c'est que Jésus-Christ a donné sa vie, il nous a sauvés et aujourd'hui nous sommes justifiés. L'apôtre Paul va nous dire, j'étais dans mon lit et le pasteur m'a fait passer une semaine un peu, je peux vous dire, non, il m'a fait passer une semaine un peu, j'ai dit celui-là. Mais quelque part, il m'a rendu service parce que ça m'a permis de réfléchir. Mais Paul va nous dire, étant donc justifié par la foi, Romains 5, c'est les bienfaits de la résurrection, étant donc justifié par la foi, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous avons la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous inversons les rôles, nous étions en guerre avec Dieu, nous étions ennemis de Dieu, mais grâce à sa mort et à sa résurrection, nous qui recevons, nous qui croyons à ce fait-là, à la mort de Jésus-Christ, aujourd'hui Jésus-Christ, il y a une expression dans le monde, très souvent on dit la main tendue, Jésus-Christ nous tend la main. Et quelque part, je voudrais dire cela en d'autres termes. Dans le monde politique, souvent, quand on dit, il y a un mot qui s'appelle référendum. Référendum, c'est oui ou non. Vêtu ou vêtu pas. Acceptez-vous ou acceptez-vous pas. C'est ça. Jésus-Christ nous dit tout simplement, vêtu ou vêtu pas. Voilà. Jésus-Christ nous tend la main grâce à sa résurrection. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix. Et Paul va nous dire aussi, nous étions en inimitié avec Dieu. Mais Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. De Corinthiens 5, verset 19-21. Bénéfice pour nous de la résurrection de Jésus-Christ. Or, Paul va nous dire que Jésus-Christ est notre médiateur. Vous savez ce que c'est un médiateur? C'est quelqu'un qui parle à votre place. Les bienfaits de la résurrection. Paul va nous dire, Jésus-Christ est notre intercesseur. Romains 8, verset 34. C'est ce que Paul est en train, Paul nous dit. Jésus-Christ intercède pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire intercéder? C'est quelqu'un qui parle en faveur de quelqu'un. Quand par exemple, Eben, mon prénom c'est Eben, Eben pêche, oui, Jésus et le Père, ils ont une communication, oui, bon, oui, Eben pêche, je vais lui passer un savon, mais Jésus-Christ se présente avec ses mains percées, mais oui, ok, d'accord, pas de problème, je suis d'accord, Eben a péché, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, ma main percée, voilà, mes pieds percés, voilà mon côté percé. Donc, Eben est justifié parce qu'il croit en moi. Voilà les bienfaits de la résurrection. Donc, je pense que là, je ne suis pas en train de me sauver. J'essaye de... Alors, après tout ça, les stratégies, l'ange qui rentre en scène et les bienfaits de la résurrection, nous voyons que Jésus qui se présente à beaucoup de personnes avant sa montée au ciel. Et nous voyons que Jésus qui se présente à Marie de Magdala, comme je vous avais dit tout à l'heure, et il se présente à plusieurs. Il s'est présenté aux apôtres, aux disciples, et la Bible nous dit en 1 Corinthiens chapitre 15, il s'est présenté à plus de 500 frères. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6. Jésus n'était pas seulement ressuscité, resté dans son coin pour que la chose ne sache pas, ou bien pour que les uns et les autres ne soient pas au courant. Jésus est ressuscité, ça a fait du bruit. Beaucoup de gens l'ont vu, et après il est remonté au ciel. Je veux dire que parler de la résurrection, forcément, ça nous demande un peu plus loin de parler du retour. Parce que c'est des points assez essentiels dans la vie de l'Église. La résurrection et le retour de Jésus-Christ, ce n'est pas le sujet. Ce matin, le retour, c'est une autre affaire. Mais ce sont des choses qui vont pratiquement ensemble. Voilà. Et puis, Jésus, à cause de son sang coulé, ça nous sanctifie. Et nos péchés sont effacés. Simplement, j'aime bien dire, ce n'est pas parce que mon père, ma mère sont en Christ Non, c'est une affaire individuelle. C'est une affaire individuelle, c'est pas parce que moi je suis chrétien, je suis papa des quatre enfants, mais c'est pas. Non, il faut que mes enfants acceptent eux-mêmes de donner leur vie au Seigneur. C'est pas un héritage biologique. Et enfin, nous voyons que Jésus va dire en Apocalypse, comme on dit souvent, Révélation, Apocalypse 1er, verset 18. Jésus va dire que je suis vivant au siècle des siècles. Et non seulement Jésus se présentant à Jean prononçant ces paroles, je suis vivant au siècle des siècles, entre autres, il a dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà, bien-aimé, en peu de mots, merci de m'avoir supporté. Je vous souhaite un bon dimanche et je vais me sauver. Que Dieu vous bénisse. Merci.